Merci Anthony. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui, je vais vous parler très brièvement d'Anthropocène, mais je vais essayer d'être bref parce que j'en ai un peu marre de parler d'Anthropocène. Et puis après, je voudrais vous montrer en quoi le diagnostic de l'Anthropocène devrait nous amener peut-être à changer un peu notre façon de critiquer la technique pour se dire finalement ce qu'il faudrait, c'est critiquer les objets, critiquer la matière, critiquer la multiplication des objets plutôt que la technique en général. Alors, donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène pour ceux qui peut-être ne savent pas encore ce que c'est? L'Anthropocène, c'est un constat qui a été posé par des géologues et de dire finalement on est rentré dans une nouvelle époque géologique qui fait suite à l'Holocène, c'est les 11 000 dernières années, qui est marquée par la prédominance de l'homme sur les grands paramètres du système Terre. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a beaucoup excité les philosophes, les artistes, ça a un petit peu excité les historiens. Moi, j'étais un petit peu émoustillé par cette affaire en 2008-2009, par là. Et en même temps, évidemment, Anthropocène, c'était un très mauvais mot pour désigner la crise environnementale, puisque derrière cette idée d'Anthropocène, il y a l'idée d'un anthropos. Alors, c'est qui l'anthropos de l'Anthropocène? Donc, on se retrouve avec une vision très malthusienne, finalement, de la crise environnementale, où c'est l'humanité prise comme une espèce qui serait communément responsable de la crise environnementale. Donc c'est assez facile à critiquer. Si on pouvait mettre la première slide, ce serait cool. Donc voilà, c'était, alors, je critique l'Anthropocène. La seule chose intéressante peut-être dans ce terme d'Anthropocène, il y a deux choses intéressantes. Premièrement, comme c'est une nouvelle époque géologique, ça montre bien que ce qu'on vit, c'est pas simplement une crise environnementale, quelque chose qui a une temporalité relativement courte. Ce qu'on a enclenché sur la Terre, c'est une révolution géologique d'origine humaine. Donc ce qu'on vit, c'est pas simplement un mauvais moment, si vous voulez, qu'on va résoudre avec quelques éoliennes et quelques panneaux solaires, même si je pense que les éoliennes et les panneaux solaires font partie de la solution. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, et on a altéré la dynamique du système Terre pour des siècles et des siècles. Donc ça avait, disons, cette amplitude pour bien montrer les conséquences énormes de ce qu'on a fait sur la planète. En gros, la force de l'Anthropocène, elle est surtout symbolique, c'est de dire, pour retrouver finalement des changements aussi brutaux sur la Terre, il faut remonter à plusieurs millions d'années. Pour retrouver un niveau de CO2 aussi élevé, il faut remonter à 3 millions d'années. Pour retrouver une baisse aussi rapide de la biodiversité, il faut remonter à 65 millions d'années, etc., etc. Donc c'est un petit peu cet intérêt, disons, de mobiliser la géologie, c'était de faire prendre conscience, même si j'aime pas du tout ce mot, en tout cas de bien insister sur le côté vraiment extraordinaire de ce qu'on est en train de faire sur la planète à l'échelle de la temporalité de la planète, à l'échelle des 5 milliards d'années, si vous voulez, de la Terre. Il y avait un deuxième intérêt, à mon avis, qui est plus productif en termes intellectuels, c'est que ça nous force aussi à rematérialiser ce que l'activité humaine, même si ce mot veut rien dire, puisqu'il faut décomposer entre pays, entre entreprises, entre races, entre classes sociales, etc., mais de rematérialiser ça à l'échelle globale. Et moi, ce qui m'avait frappé dans les textes de l'Anthropocène qui étaient parus autour des années 2009-2010, c'était ce genre de graphique où on avait des courbes absolument ahurissantes de consommation de matière, d'émissions de polluants à l'échelle de 2 siècles. Et en tant qu'historien, moi, je me disais, ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas d'histoire qui soit capable de rendre compte de ce genre de courbe. Ou alors, on a déjà toute l'histoire, mais disons qu'on n'a pas rematérialisé l'historiographie, ce qui nous permettrait vraiment, en termes historiens précis, de comprendre la dynamique de l'Anthropocène. Donc je pense que l'intérêt principal, c'était finalement de nous forcer, de nous inciter à rematérialiser les problèmes à l'échelle globale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est la critique de la technique. Qu'est-ce que ça veut dire pour la critique de la technique? Je dirais que d'une certaine manière, cette prise en compte du poids de l'humanité, si vous voulez, ça devrait nous inviter, à côté d'une critique morale, sociale de la technique, qui est absolument indispensable et qu'il ne faut absolument pas rejeter, faire une critique matérielle de la technique. Et je pense que c'est assez différent, parce que ce qui compte dans ces cas-là, ce n'est pas tant les objets techniques, la technologie, le high-tech, ou disons les formes de plus en plus avancées de la technoscience, mais le nombre de ces objets et les masses de matière que ces objets mobilisent. Alors, je voudrais vous montrer, si on peut changer de slide, un graphique qui vient de paraître de 2019 d'un groupe de chercheurs qui se trouve en Autriche, qui sont les grands spécialistes de la quantification de la matière à l'échelle globale. Donc c'est un article qui vient de sortir de 2019 qui nous montre un petit peu l'évolution de la consommation matérielle au niveau global. Ce qui est frappant, c'est que c'est la courbe en haut à gauche, l'extraction de matière au niveau global. Ce qui est assez déprimant, c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a aucune, enfin, il y a une rupture de pente, mais elle va dans le mauvais sens. Entre 2002 et 2015, l'humanité a extrait 1000 gigatonnes de matière, donc essentiellement, vous voyez, du gravier et du sable, c'est pour les constructions d'infrastructures, de routes en particulier, de bâtiments, de la biomasse, ça croît très vite la biomasse. Ça s'accélère, la consommation de biomasse, principalement parce qu'on mange de plus en plus de viande à l'échelle globale. La consommation d'énergie, elle, a tendance à se stabiliser vaguement, mais ça augmente quand même encore un peu dans les dernières années. Mais ce qui est frappant, c'est qu'entre 2002 et 2015, je vous ai dit, on a extrait 1000 gigatonnes de matière, et ça représente un tiers de tout ce qui a été extrait depuis 1900. Donc, dans la dernière période, au moment où on n'arrête pas de parler de transition énergétique, au moment où aussi il y a une crise économique qu'on nous dit être catastrophique, la consommation de matière n'a fait que s'accélérer. Alors, ce qui est intéressant, je trouvais dans leurs travaux, ils montraient qu'il y avait un changement. En gros, si les consommations de choses qui s'évaporent, genre charbon, pétrole, gaz, ont tendance à croître un peu moins vite. Par contre, ce qui croît de plus en plus vite, c'est la consommation de gravier et de sable, et donc la production d'infrastructures. Et le truc le plus frappant, finalement, c'est cette courbe-là, en bas à droite, c'est les stocks de matière. On a un accroissement des stocks de matière, des infrastructures. On a stocké près de 961, donc on a quasiment 1000 gigatonnes de matière stockée en 2015, et 40% de ces stocks ont été constitués entre 2002 et 2015. Ce qui est important, c'est de voir que cette augmentation de stocks, à terme, bon, c'est déjà de l'artificialisation des sols, c'est énormément d'émissions de CO2 parce que le béton, c'est très énergivore, c'est tout plein de problèmes environnementaux massifs, évidemment. Mais à terme, ça sera en fait des flux, ça sera des déchets, parce que c'est la durée de vie de ces infrastructures en béton, elle est assez limitée, en fait. C'est de l'ordre de 50-60 ans. Donc on va se retrouver avec un énorme problème lié aussi à la maintenance de cette énorme infrastructure qui n'a fait que croître entre 2002 et 2015. Est-ce qu'on peut changer de... Non, revenir peut-être une seconde à la précédente, pardon. Donc, la mauvaise nouvelle, si vous voulez, alors c'est absolument illisible, mais si on prend l'extraction domestique totale entre 1973 et 2002, ça s'était un peu calmé, on était à 1,9% de croissance par an, et ça s'est de nouveau accéléré entre 2002 et 2015, puisqu'on est à 3,3%. D'accord. Donc c'est un peu ça, disons, la leçon assez déprimante de ce genre de travaux où on rematérialise concrètement ce qu'on fait sur la planète. On ne parle pas du high-tech, etc. On regarde concrètement ce qui se passe en termes de flux de matière. Si on peut par contre changer une fois. Alors cette slide, je voulais simplement vous montrer, en gros, cette accumulation de matière, elle a eu lieu massivement en Chine. Il ne faut pas se leurrer, c'est 60% de la croissance de l'extraction de matière s'est faite en Chine. Et là, vous avez le Global Center de Chengdu, qui est le plus grand bâtiment du monde. Ça fait 3 fois le Pentagone, 8 fois le Louvre. Et puis évidemment, l'essentiel, c'est les routes, les infrastructures, les bâtiments ne sont en fait pas si importants. Il y a une thèse qui est en train de se faire de Nello Mogales sur ces questions de bétonisation. Ce qui montre, c'est que plus de la moitié, c'est les routes. En fait, les routes sont extraordinairement demandeuses de matière, de gravier, etc. Alors, si on peut encore changer le site, c'est pas très pratique, désolé. Alors, il se passe aussi quelque chose, il faut aussi le reconnaître, dans les pays avancés, riches, on va dire. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec Nello en premier auteur, mais il y avait François aussi qui était dans l'article. C'est la même chose que font les Autrichiens au niveau global, mais simplement pour la France. Depuis les années, alors c'est vraiment lié au choc du pétrole, c'est pas du tout lié à l'incantation de la transition énergétique, la consommation matérielle de la France a diminué, mais relativement peu quand même. Hein. On passe de 17 tonnes de consommation matérielle par an, par habitant, à 13. Donc ça a un petit peu diminué en 40 ans, mais ça ne va pas du tout évidemment au rythme qu'il faut pour la question de la transition énergétique. Alors pourquoi il n'y a pas de transition? Finalement, c'est ça la question qui me semble importante. Pourquoi on a un mal fou finalement à faire vraiment une transition? Alors il y a une raison toute simple, c'est que si on regarde en fait l'histoire des techniques, et en fait il suffit de regarder un tout petit peu l'histoire des techniques, pour voir que cette idée de transition, elle est fondée sur une mauvaise compréhension de l'histoire des techniques. La chose importante, c'est que historiquement, les techniques ne se substituent pas les unes aux autres, pour la plupart du temps, et encore moins en termes matériels. Et je vais vous donner un exemple précis sur la bougie. L'histoire de la bougie au 19e siècle, on pourrait croire que la bougie, c'est un truc qui est has-been au 19e siècle, parce que apparaît le gaz d'éclairage, puis plus tard l'électricité. En fait, la bougie ne fait que croître, ne fait que continuer de croître au 19e siècle. Le pic bougie, c'est à la pic de la bougie, le pic de la consommation de la bougie, c'est à la fin du 19e siècle, et ça continue à un niveau très très élevé, encore loin dans le 20e siècle. La chose vraiment importante, si on pense à l'histoire de l'éclairage en général, au 19e siècle, c'est pas l'arrivée du gaz d'éclairage, qui est quelque chose d'assez mineur en fait, c'est la globalisation des flux de graisse qui alimentent l'économie française, et en particulier des graisses d'Afrique de l'Ouest et l'huile de palme, qui commence à être utilisée à partir des années 1820-1830 massivement pour l'éclairage des Français. Et ce qui me semble intéressant quand on dit huile de palme, c'est qu'on voit bien que même si la bougie a disparu, la consommation d'huile de palme, elle, n'a fait que croître. Et on n'en a jamais consommé autant que maintenant. D'une certaine manière, on est encore dans une situation assez proche du 19e siècle, où on utilise énormément de biomasse pour nos besoins énergétiques. On utilise beaucoup plus de biomasse pour nos besoins énergétiques qu'on ne le faisait dans les économies qu'on décrit utilisant des énergies traditionnelles. D'accord ? Donc, à la fois en termes techniques, l'idée d'une transition technologique, si on prend le cas de l'éclairage, ne marche pas très bien. Et si on le prend en termes matériels, ça ne marche pas du tout. D'accord ? Donc vraiment, la question importante, c'est de se dire qu'il faut passer d'une vision transitionniste de l'histoire des techniques à une histoire additionnelle, additive, si vous voulez. On passe d'une strate technologique les unes sur les autres, et ça vaut encore plus quand on prend en compte les flux de matière. Une autre manière de le dire, c'est qu'il faut imaginer le monde économique et technique dans lequel on vit comme quelque chose qui est tout le temps en train d'utiliser l'essentiel des matières disponibles. J'ai un autre exemple récent sur lequel je suis tombé récemment. En gros, un produit chimique hyper important au 19e siècle, c'est la soude, qui sert à faire du verre, du savon, blanchir le textile, blanchir le papier. En gros, vous avez besoin de soude pour absolument faire tout dans l'industrie au 19e siècle. Au 18e siècle, on brûle du bois ou bien des algues pour produire cette soude. Je pensais que au 19e, 20e siècle, on arrêtait de faire ça. Mais en fait, pas du tout. On continue et ça ne fait que croître. On produit davantage de produits chimiques à partir d'algues fin 19e qu'on le faisait en fait au 18e siècle. Parce qu'on retire autre chose. On va retirer du brome, on va retirer plein d'autres choses moins connues. Mais en fait, la consommation de biomasse ne fait que croître, même pour la chimie au 19e siècle. Alors, une fois qu'on a, disons, cette vision en tête, une vision donc matériel des techniques, il me semble que ça fait plusieurs choses pour la question de la critique des techniques actuellement. Premièrement, je crois que ça doit décentrer le regard du high-tech, de l'innovation, du nouveau en général. Tout simplement, pour une raison toute simple, ce qui nous a mis dans la merde, c'est quand même des technologies anciennes. C'est les technologies du 19e et du 20e siècle. Si on prend, par exemple, des choses vraiment toutes bêtes de bon sens, ce téléphone portable qu'on adore critiquer et puis qu'on adore tout court, j'ai regardé son chargeur, c'est un chargeur qui consomme 7 watts. Si on l'utilise pour le charger 3 ou 4 heures par jour, on va consommer par année 10 kWh simplement pour l'utilisation du téléphone portable. Donc 10 kWh par an. Un aspirateur, ça consomme 500 watts. Si on fait 30 minutes de ménage par semaine, on consomme plus d'énergie à faire le ménage avec son aspirateur qu'en utilisant le téléphone portable. On a des tombereaux de littérature sur la critique écologique du high-tech et des téléphones portables. Et on ne critique pas l'aspirateur. Mais l'aspirateur, c'est en fait hyper dommageable pour l'environnement. D'accord ? Et si on rajoute à ça, alors l'aspirateur, c'est un cas tout à fait marginal, mais alors, si vous prenez les plaques de cuisson, si vous prenez le réfrigérateur, la machine à laver, ou encore pire, le chauffage électrique, mais vous avez des milliers de fois la consommation énergétique de nos objets numériques. Et pour autant, on a tendance à se focaliser sur la critique numérique. La critique numérique est, à mon avis, très importante à réaliser, mais pour des raisons aussi environnementales, il faut le faire, évidemment, parce qu'il y a plein de terres rares, de trucs dégueulasses, c'est compliqué à recycler pour plein de bonnes raisons, hein, il faut critiquer le numérique. Mais il ne faut pas non plus oublier de critiquer l'ensemble des infrastructures qui existaient auparavant et qui sont en fait encore plus dommageables, si vous voulez. D'accord ? Alors, je voudrais conclure sur deux points avec un changement de slide, s'il vous plaît. Non, dans l'autre sens. Alors, ça c'est une slide qui, à mon avis, enfin, je peux aller assez vite, mais en gros, on a tendance, évidemment, le problème, je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de transition et ça vaut en particulier pour le cas de l'énergie. Historiquement, il n'y a pas de transition énergétique. En gros, on pourrait penser qu'on passe d'un système énergétique organique au 18e siècle à un système fossile sur charbon au 19e siècle, au 20e siècle au pétrole. Ça, c'est l'histoire qu'on a tous en tête. Et même si vous prenez Tim Mitchell, qui a écrit un livre important qui s'appelle Carbone démocratie, il a ce schéma en tête où le 20e siècle serait le siècle du pétrole qui aurait permis de contourner le charbon. Mais en fait, c'est faux. Historiquement, le pétrole ne fait que s'ajouter à un mix énergétique qui reste aussi basé sur le charbon. Et on utilise, je vous l'ai dit, sans doute plus d'énergie de la biomasse maintenant qu'on l'utilisait au XVIIIe siècle. Donc il faut vraiment se sortir de l'idée qu'on a fait des transitions et que donc ce qu'on doit faire, c'est finalement quelque chose qu'on a déjà fait. Et c'est, je vous montrer simplement quelques-unes des images récentes. J'ai découvert que, par exemple, en Irlande, on utilisait encore la tourbe, il y a peu, pour faire de l'électricité. La tourbe, hein. Franchement, la source d'énergie qu'on estimait déjà ringarde pour plein d'industriels au XIXe siècle, quoi. Autre exemple que je trouve assez intéressant, c'est en bas à droite, vous avez l'image d'un métanier qui s'appelle Christophe de Margerie, qui historiquement a un rôle important parce que c'est le premier qui a fait le passage par le nord-est. En gros, il a rejoint l'Europe à la Chine, à l'Asie, en passant non pas par Suez, mais par le nord de la Sibérie. Alors évidemment, on n'en a pas tant parlé que ça, mais alors que dans l'histoire de la globalisation, c'est sans doute un grand événement, quoi. C'est comme si un nouveau canal de Suez était creusé gratuitement grâce au changement climatique. C'est un truc qui va vraiment changer sans doute les flux économiques et les flux commerciaux. Mais l'autre chose intéressante, c'est que ce bateau, ça sert à transporter du méthane qui est extrait donc au nord de la Sibérie, dans un endroit qui s'appelle Yamal. Et à Yamal, il y a pour entre 35 et 50 ans de consommation mondiale de gaz. Donc il y a énormément de matières fossiles. Et il n'y a aucune raison que la transition, si vous voulez, se fasse à cause du pic. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut sortir de la tête. Des ressources fossiles, il y en a, mais largement trop pour des questions climatiques. Ce que nous disent les climatologues, c'est qu'il faut laisser les trois quarts des ressources économiquement accessible, donc même pas très cher en fait, très compliqué à exploiter, de pétrole, de charbon et de gaz. Il faut laisser tout le charbon, il faut laisser l'essentiel du pétrole et il faut laisser une bonne partie du gaz sous le sol pour pas dépasser les fameux 2 degrés en 2005. Donc le point important, c'est qu'on n'a jamais fait de transition énergétique. On continue, la consommation d'énergie fossile continue à croître, un peu moins vite, mais elle continue à croître, et qu'il n'y a pas de question de ressources. Dans ce cadre-là, je crois qu'il faut se méfier d'une forme de technocritique à l'époque de l'Anthropocène. Il faut bien voir que les écolos n'ont pas le monopole de la critique de la technique. La critique de la technique, elle vient un peu de tout plein d'endroits différents et elle vient aussi des lobbies pétroliers et nucléaires. Et je voudrais vous donner en exemple la critique de l'éolien, des éoliennes. J'habitais à Londres de 2011 à 2014 et j'étais frappé de voir que chaque semaine, il y avait dans The Sun ou le Daily Mail des articles sur, alors ça allait être le dernier oiseau qui avait été flingué par les pales d'une éolienne. Ça pouvait être... il y avait des choses assez folkloriques. Par exemple, des chercheurs d'une obscure université américaine qui expliquaient qu'en fait, les éoliennes réchauffaient le climat parce que ça perturbait la circulation de l'air et l'air chaud restait à cause des éoliennes plaquées sur le sol. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Des fermiers français qui expliquaient que les éoliennes auraient tué des centaines de vaches en France parce qu'en gros, les éoliennes récupéraient l'électricité du sol et ça faisait du mal aux vaches. On avait mais chaque semaine des articles complètement pipeaux sur les éoliennes. Il y en a un qui était particulièrement intéressant, c'est un article de 2011 qui expliquait in China, en Chine, le vrai coût de notre Jérusalem verte, c'est en fait la pollution à cause de l'extraction des terres rares. Et cette idée qu'il y aurait une connexion forte entre les éoliennes et l'extraction de terres rares en Chine. Et que finalement, pour que nous, on ait un environnement sain et pour qu'on prétende sauver le climat, on allait bousiller l'environnement à Baotou, c'est une ville à l'ouest de la Chine, en Mongolie intérieure. L'argument a été repris par un journaliste qui s'appelle Guillaume Pitron récemment en France. Le problème, c'est qu'en fait, premièrement, quelques éoliennes utilisent des terres rares, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et par exemple, en Allemagne, les éoliennes n'utilisent pas de terres rares parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire des aimants permanents pour faire des éoliennes. Il suffit de prendre une bobine de cuivre et d'utiliser de l'électricité pour faire un aimant. Il n'y a pas forcément besoin de terres rares. Ce n'est pas obligé. Il y en a qui le font parce que ça réduit un peu le coût de maintenance, mais ce n'est pas du tout obligé. Et la plupart des grandes éoliennes maintenant n'utilisent pas de terres rares. L'autre problème de cet argument, c'est qu'en fait, les terres rares qu'on extrait, c'est vrai que c'est très polluant en Baotou, ce n'est pas du tout pour faire des éoliennes. Ce n'est pas du tout pour faire la transition énergétique, c'est pour nos petits machins comme ça. C'est évidemment pour le high-tech, pour le coup, c'est pour le numérique. Donc en fait, on a une critique de l'éolien, mais ça vaut, à mon avis, pour d'autres questions de renouvelables, qui a été complètement performée dès les années 2008-2009, en fait, par des groupes, alors le Daily Mail, que j'ai simplement regardé le site du Daily Mail et j'ai regardé un peu ce qu'il disait sur les éoliennes. C'est, l'éditeur, c'est Paul Dacre, je ne sais pas comment on prononce en anglais. C'est un conservateur anglais qui est vendu aux énergies fossiles. On a la même chose aux États-Unis. Ça a été repris par, par exemple, un bouquin de Joseph Toomey qui est An Unworthy Future, The Grim Reality of Obama's Green Energy Delusions, qui est une critique de l'énergie renouvelable, qui est un consultant pour l'industrie pétrolière. En France, si vous regardez, à part Philippe Biwix, en fait, qui est un écolo qui est sur ce créneau-là, la plupart des gens qui critiquent les éoliennes en disant ah oui, ça utilise des terres rares, etc., en fait, si vous regardez très très vite les sources, c'est des lobbies pro-nucléaires qui sont derrière les sites internet. C'est par exemple Contrepoint, vous avez tout un tas d'articles sur le problème des terres rares et de l'éolien qui sont en fait des faux, quoi, qui sont factuellement faux. Donc, j'arrête là, en fait. Voilà, donc, je pense que c'est important d'avoir, pour résumer, à l'époque de l'Anthropocène, si vous voulez, les enjeux en termes de choix technologiques, énergétiques en particulier, sont tels pour le bien-être de centaines de millions de personnes à horizon 2050, qu'il faut faire extrêmement attention à la critique des techniques et qu'il faut s'efforcer de voir ce qui compte vraiment en termes matériels, climatiques, énergétiques. Ce qui n'empêche pas après de critiquer les techniques pour des raisons sociales, morales, le big data, big brother, etc. Je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut bien veiller, disons, à rematérialiser les choses. Et je dirais que l'enjeu, c'est aussi notre responsabilité, justement à l'époque de l'Anthropocène, où les choix qu'on fait vont conditionner l'habitabilité de zones importantes de la planète dans le futur. Voilà, je vous remercie pour votre attention.